Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Rendez-vous Création. Je me trouve aujourd'hui avec Jennifer. Tu es la cofondatrice et la gérante de La Machine à Cailloux,
une maison d'édition.
Et c'est justement l'occasion pour nous de parler de la création d'une maison d'édition, puisque tu en es la cofondatrice. Et puis évidemment, on va en profiter pour parler de l'édition d'un livre. Alors, on a dit que tu étais cofondatrice.
Oui.
Ça veut dire forcément il y a quelqu'un d'autre.
Oui, en fait, on est deux.
Ouais.
Donc, il y a mon associé qui s'appelle Sonia et moi. Quand on a fondé la maison d'édition, en fait, moi, ça faisait longtemps que je réfléchissais à faire ça, mais j'arrivais pas à le faire seul, en fait. J'avais besoin d'être deux. On a eu l'idée de se raccrocher à cette envie, et après, on a eu l'idée des thèmes qu'on allait éditer ensemble, en fait. Moi, au début, j'avais une envie comme ça, ex nihilo, qui pouvait pas se matérialiser parce que j'avais pas d'orientation, en fait.
Et Sonia avait aussi cette envie-là.
Le côté édition de livre, c'est moi qui avais envie. Après, nos métiers faisaient que c'était la matière qu'on savait travailler. C'était les mots, les textes, etc. Parce qu'on travaille dans des journaux. Donc c'est des choses qu'on manie tout le temps. Ça ne nous faisait pas peur, quoi. C'était pas très nouveau, quoi. Moi, j'avais déjà fait de l'édition avant, de la micro-édition et de la grosse édition. Et après, techniquement, je me sentais au point, en fait. Après, l'idée nous est venue, le thème, c'est on est allé à un concert ensemble et on a vu une affiche partagée. Il y avait Albin de la Simone et Bertrand Belin. Et en sortant, on s'est dit, mais puisqu'on connaît tous ces gens-là en dehors par des connexions autres, puisque c'est des gens qu'on fréquentait, etc., et qu'on a envie de faire des livres et qu'on aime bien la musique, pourquoi on ferait pas quelque chose là-dessus, quoi? Et nous, ce qui nous intéressait, toutes les deux, c'était la création et ce qui se passait autour de ça, quoi.
Donc, voilà, parce que quand on va sur www.lamachineacailloux.com, on voit écrit maison d'édition fondée en 2006, mais aussi ouvrage dédié à la création artistique et à son processus.
Ouais.
Alors, son processus, pourquoi son et pas ses processus?
Ben, en fait, déjà, on ne s'est pas posé la question.
Ouais.
On sait bien qu'il n'y a pas un processus unique, mais ce qui me dérange, moi, avec le pluriel, c'est qu'il y a un côté technique qui apparaît, alors que nous, on voulait démonter les mécanismes plutôt liés à l'inspiration. Les moments qui suscitent vraiment les chansons, les moments qui font naître quelque chose, et pas forcément comment techniquement ça se passe, en fait. L'idée première, c'était ça.
Donc plutôt que de lister des recettes, c'est parler de l'esprit.
Oui,
de la
création. Que c'est infaisable, en vrai. Hein. C'est, personne ne peut dire pourquoi ils font les choses et comment ça se passe en réalité. Mm-hmm. Mais n'importe qui, un musicien, un auteur, c'est impossible, quoi. Ils peuvent nous donner des trucs, des astuces, ils peuvent nous dire comment ça se fait techniquement, mais en réalité, ils ne peuvent pas répondre. Enfin, personne ne peut répondre. Enfin, je pense.
Avec Sonia, vous partagez tous les rôles, lecteur, journaliste, attaché de presse, éditeur, vous faites tout ça à deux?
Non, ça dépend des domaines. Par exemple, moi, je m'occupe beaucoup du côté technique et du côté fabrication. Mmh. On relit toutes les deux les textes, on les travaille toutes les deux. On fait toutes les deux les relations presse et tout ça. Et la chose que moi, je fais pas du tout, que Sonia fait, c'est les démarches auprès des libraires, etc. Le côté diffusion, en fait.
Représentant.
Après, tout ce qui est technique pure, c'est-à-dire mise en page, etc., c'est moi qui m'en occupe aussi. Et quand il y a des interviews, c'est Sonia qui s'en occupe, parce que c'est plus son domaine. Elle est plus douée là-dedans que moi, donc je la laisse faire.
Entre l'idée, votre rencontre, et puis 2006, donc le début de la maison d'édition, sa fondation, il y a eu combien de temps?
En fait, on a eu... c'est passé un an à peu près. Ce qui nous a pris du temps au début, c'est de faire toutes les choses un peu administratives, écrire les statuts, déposer les statuts, etc. Ça, c'était la partie...
Alors, pour une maison d'édition, il faut quel type de structure?
Nous, on a tranché pour la SARL, parce que c'est purement technique. C'est qu'avant, je l'avais déjà fait avec un autre copain. Pas sur ce thème-là, mais on rééditait des livres épuisés ou des anciens textes, etc.
Ah oui, donc t'as quand même une expérience du domaine.
Ouais, c'était sous forme d'association loin 1901.
Ouais.
Et c'était compliqué pour la TVA, c'était compliqué avec les grosses structures de type FNAC et tout ça. Donc moi, j'ai voulu déblayer le terrain et passer en SARL, être en SARL tout de suite. Pas être embêté parce que la FNAC... ils ne trouvaient pas qu'il y avait la TVA, où elle était et pourquoi c'était sous cette forme, etc. Donc voilà quoi.
Tout à l'heure, tu disais que tu avais une expérience dans une petite structure, donc c'était peut-être celle-là,
ouais,
l'association.
Celle-là, ouais.
Et tu disais que tu avais aussi une expérience dans une grosse structure.
Enfin, grosse, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler, je voulais travailler dans l'édition et donc j'ai commencé à faire des stages dans des maisons d'édition installées qui n'étaient pas très très grosses, mais qui étaient diffusées normalement, distribuées normalement, qu'on trouvait normalement dans les librairies, qui étaient présentes, qui existaient vraiment et qui faisaient partie d'un groupe, d'un grand groupe d'édition, quoi. Moi, j'ai commencé dans une structure où il y avait 6-7 personnes, où j'ai tout appris, en fait, la correction, un petit peu de maquette, un petit peu d'icono, un petit peu de fab. Bon, j'imagine que j'ai pas tout appris à fond, mais suffisamment pour me débrouiller aujourd'hui, quoi, en fait, avec tous ces domaines-là, quoi.
Par contre, il te manquait de quoi faire les démarches.
Ouais.
C'était quoi ces démarches en particulier? Donc déposer les statuts?
Ouais, il y a surtout ça.
Les écrire alors?
Parce que c'est un vocabulaire très particulier, on a peur de faire des bêtises. Après, il faut bien faire les choses pour pas payer les retraites. Enfin, c'est hyper compliqué parce que si on fait mal les choses et qu'on se fait attraper par l'URSSAF ou des choses comme ça, après c'est la mort de la structure, quoi. Il faut vraiment faire gaffe au début. Enfin, selon moi, il faut faire très attention au début, bien faire les choses et tout ça. Et le truc qui était un peu stressant, c'était que plus je prenais des renseignements, et moins c'était clair. Et en fait, il y a tout le temps des expériences contradictoires, des gens ou des comptables qui vont dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a entendu avant. Et ça m'a...
Qu'est-ce qui a permis de débloquer la situation?
Bah, c'est un moment, il faut le faire, et puis c'est tout, quoi.
Ah, oui.
Et en fait, le jour même où on a déposé les statuts, l'employé de la chambre de commerce qui a lu les statuts avec nous, avant de les déposer, elle a dit « Mais c'est mieux si vous faites ceci ou cela. » Et en fait, on s'est retrouvés le jour même au Blanco à changer des choses, parce qu'elle nous a dit que c'était mieux, qu'on paierait moins de choses derrière, etc.
Vous n'avez pas eu d'aide en particulier?
Non.
Il n'y a pas eu des partenaires au moment de la création?
Aucun.
Toutes les deux, toutes seules.
De toute façon, au début, c'était un genre de hobby ou d'envie que j'avais vraiment envie de faire et pas du tout une envie de commerciale, en fait. Que ce soit une activité qui, entre guillemets, qui marche, en fait. On voulait juste que ça survive, mais... Le problème, c'est qu'après coup, je me suis aperçu que ça, c'était pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que si on est déficitaire plus de 2 ou 3 ans, on est mis en liquidation judiciaire
automatiquement.
Ouais. Donc, il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand même. Moi, on m'avait dit, quand on crée une boîte, même si c'est l'édition et tout ça, on m'avait dit, attention, il y a 50% d'édition et 50% d'administratif. Et en fait, je pense que j'ai affiné le truc. Je pense qu'il y a 33% d'édition, 33% d'administratif. Et 33% en relations presse, etc. Quoi. Et dans l'administratif, je mets aussi la comptabilité, la facturation et tout ça. Quoi. Ces trucs-là sont un peu...
Si la structure est créée, après, il y a la création des collections.
Oui, alors nous, on était partis sur l'idée de travailler avec des musiciens d'entrée de jeu. On était vraiment surexcités par l'idée. On avait l'impression de tenir un truc. Et tout de suite, on s'est senti pressé de faire les choses parce qu'on avait peur de se faire piquer, entre guillemets, l'idée ou que quelqu'un d'autre vienne à la même idée en même temps. Alors, je ne dis pas que c'est très original ce qu'on demande ou ce qu'on fait, mais on sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Et on voulait le faire tout de suite. Donc, on a lancé tout de suite les premiers textes et tout ça. Et tout de suite, on s'est dit qu'on pouvait étendre à d'autres domaines que la musique, en fait. Donc,
il y a la chorégraphie.
Sur notre site, on a ouvert aux chorégraphes, parce que dans l'idée, on adorerait travailler avec des chorégraphes. Pour l'instant, on n'a pas le temps. Et puis, en vrai, on peut travailler avec les peintres, des sculpteurs, etc., toutes les disciplines artistiques, ou même de l'artisanat. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est ouvert, en fait. Hein. On est, si un jour, il y a des histoires... Pour moi, c'est des histoires de rencontres et de chimie qui se font. On est hyper ouverte sur les thèmes, quoi.
Les musiciens, ça s'appelle la collection carré.
Ouais.
Les chorégraphes, eux, vont dans la collection rond.
Ouais.
La collection triangle.
C'est ouvert, en fait.
Et pourquoi les chorégraphes seraient plus ronds que les musiciens et pourquoi les musiciens seraient plus carrés que les chorégraphes?
Ça, c'est juste des hasards, en fait. Le carré, c'est parce que au début, on n'avait pas de nom de collection du tout. Et c'est quand on a fait les maquettes, on a commencé à faire les maquettes de couverture, etc. Et à un moment donné, on en est arrivé aux couvertures qu'on a aujourd'hui, à savoir que c'est coupé en deux. Il y a une photo du côté gauche et un aplat avec le titre du côté droit. Et je trouvais qu'il manquait quelque chose dans l'équilibre et j'ai mis un tout petit carré en haut à droite parce que je trouvais que ça asseyait les choses, en fait. Et bah du coup, on a dit, bon, on n'a qu'à l'appeler comme ça, etc. Et après, d'où le rond pour le reste, le triangle, etc. Et toute forme géométrique, quoi, hein, si on a besoin d'aller
peut-être
encore plus loin.
On aura une croix après.
Oui, peut-être.
les auteurs de la collection Carré. Moi, j'ai 3 livres pour l'instant, Albin de la Simone, Armand Méliès et Dominique A. Mais il y en a d'autres.
Oui, il y a eu la première fournée. Donc, il y avait Bertrand Belch, Xavier Plumat, qui est le chanteur de Tulou, et Albin de la Simone. Ça, c'est sorti en février 2007. Il y a une deuxième fournée qui est sortie en septembre-octobre 2008. Il y avait Dominica et Armand Méliès. Là, on a un petit peu traîné entre les deux sorties, mais bon, c'est comme ça. Mais l'idéal pour nous, c'est de sortir au moins une fois par an des livres, si c'est pas deux, si c'est possible, quoi. Par paquet de 2 ou 3, en fait.
Les livres ont des formes assez différentes, en tout cas dans les 3 que j'ai. Il y en a un qui est principalement composé d'entretiens.
Oui.
Il y en a un où il y a des dessins.
Oui.
Et il y en a un où il n'y a pas de dessin, pas d'entretien.
Oui. Alors, nous, on a laissé le champ ouvert aux musiciens pour qu'ils s'expriment sur le sujet de comment ça se passe la création, pourquoi, comment, etc. On ressent vraiment le besoin qu'ils s'approprient le sujet. Pour que les bouquins ne se ressemblent pas, il faut vraiment qu'ils y mettent du leur et que ce soit leur personnalité et qu'ils soient sincères en le faisant, etc. Pour qu'ils fassent le texte à leur façon, déjà on se plie un petit peu à leur emploi du temps. Par exemple, Albin, il n'avait pas le temps d'écrire. Mmh. Et du coup, on a décidé de faire des interviews parce que c'était plus simple pour lui de faire comme ça. Donc voilà, on essaye d'être assez souple sur la méthode.
Pour ceux qui écrivent seuls, ouais. Vous avez des indications particulières ?
Pour l'instant, ceux qui ont écrit seuls, il y a eu plusieurs cas de figure. Et, les premiers jets qui sont très bons, il n'y a plus grand-chose à faire. Les premiers jets qui sont très bons, mais il faut quand même restructurer ou éclaircir, etc. Et puis, il y a des textes auxquels il faut pas mal bosser. C'est souvent pour des histoires d'organisation et des cohérences du texte qu'on a eu besoin de beaucoup travailler en général. Pas tellement sur le style, en général, ça va très bien. Et pas tellement sur le sens. Ça coule assez vite, tout de suite, en général. Après, c'est pas le même boulot quand on fait une interview que quand on corrige un texte déjà écrit, quoi. C'est autre chose, quoi. C'est pas du tout la même chose. Le même investissement, c'est pas les mêmes compétences qui entrent en jeu, etc. Quitte à faire ce projet-là, je préfère quand les auteurs écrivent eux-mêmes, en fait. Parce que c'est là déjà qu'ils s'aperçoivent que c'est pas si facile d'écrire, et puis c'est là qu'ils sont obligés d'y mettre du leur et de fouiller un petit peu, quoi. Et c'est là que ça devient bon, en fait, c'est quand ils commencent à se plonger un peu en eux-mêmes, quoi, pour savoir pourquoi. En général, ça les embête, hein, de poser la question, de répondre vraiment à nos attentes, parce que ils ont pas envie de démonter forcément les mécanismes, et puis ils ont pas forcément envie de savoir pourquoi ils le font eux-mêmes, quoi. En général, les auteurs répondent pas vraiment à la question de base qui est pourquoi et comment, en fait. Ils répondent pas, ils tournent autour, mais ils répondent pas, quoi. Mais c'est ce que je pense que personne peut vraiment répondre, en fait.
S'il y avait une réponse, ça saurait peut-être.
Bah oui, je pense que ça saurait, ouais. Et puis on serait pas là à avoir envie de savoir aussi.
Eh oui. Alors les évolutions, bah, par exemple de l'équipe, hein, est-ce que vous allez continuer toutes les deux toutes seules ?
Ah oui, là on va continuer, y a des projets en cours, ça il n'y a pas de problème. Après, il faut que ça suive économiquement, quoi. Même si à l'origine, le but c'était pas de faire de l'argent, il faut quand même en générer pour continuer d'exister. Donc, là,
alors peut-être vous avez envie de laisser tomber la structure SARL pour...
Non, mais pour l'instant ça fonctionne, là... On a eu un petit succès d'estime. On a eu, dès les premières sorties, en fait, on a eu des papiers dans des quotidiens nationaux. Donc, on se dit que, bah, déjà qu'on fait pas de la merde, donc ça fait plaisir. Et puis, bah, que ça intéresse des gens, quoi. Donc, ça, c'est toujours valorisant. J'avoue qu'avec le Dominica à Noël, là, c'est sorti juste avant Noël, on a vendu un petit peu, quoi. Donc, c'est plutôt rassurant. Nous, on a une démarche de maison d'édition de fond, c'est-à-dire. On veut pas forcément vendre tous les livres tout de suite, quoi. On veut pas forcément avoir des best-sellers, avoir le stock épuisé en 3 mois, ça nous intéresse pas tellement. Nous, on veut vendre en continu et exister sur la durée, quoi. Donc il faut se positionner aussi sur des livres qui sont pas trop éphémères. Donc
vous allez réimprimer.
Ouais.
Ensuite, il y a l'évolution des collections. On a vu que c'était ouvert.
Oui. Bah, ouvert, mais en même temps ça bouge pas pour l'instant. C'est ouvert.
Est-ce qu'il y a des plans précis par rapport à ça?
Non, il n'y a pas de plan précis, mais je pense que tout ça c'est des histoires de rencontres. Par exemple, j'arrivais pas à faire les choses toute seule, j'ai rencontré Sonia, on a fait la maison d'édition. J'aimerais bien avoir un attaché de presse. Je pense qu'on va bientôt rencontrer des gens qui vont pouvoir le faire avec nous. Les chorégraphes, c'est pareil. Je pense que moi, j'y connais rien à la danse, etc. Je pense qu'un jour, je vais rencontrer quelqu'un qui sera un peu pointu là-dedans, qui va bien s'entendre avec nous et qu'on pourra travailler ensemble, en fait.
Qui pourra quelqu'un à qui je
pourrais, oui, voilà, quelqu'un à qui je pourrais déléguer des choses et en qui je pourrais avoir une confiance aveugle pour décider les choses à ma place ou à la place de Sonia.
Alors peut-être plus simplement évolution du catalogue, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux livres bientôt ?
Oui, alors bientôt je ne sais pas trop parce que là on a toujours été en retard sur tous nos plannings, donc c'est aussi le côté un peu micro-édition, on n'arrive pas à tenir nos propres délais, ce qui est un peu handicapant quand on veut s'insérer dans une démarche commerciale par rapport à la presse et par rapport aux libraires aussi, parce qu'on est toujours en retard, donc on préfère annoncer quand on a fini maintenant, parce que sinon... On se trompe toujours. Mais a priori, on sortirait le prochain ouvrage qui serait tout seul. Hein. Là, cette fois-ci, c'est rare, mais ce serait tout seul. On aurait Mathieu Bogart à la fin de l'année. Et puis,
Lui, il a été annoncé, par contre.
Ouais. Et puis en chantier, on a un ouvrage avec Bertrand Belin qui a déjà rendu son texte.
Oui, alors j'ai vu passer son nom aussi.
Qui est très très. Enfin, qui pour moi va être un truc super. Après, il va falloir qu'on travaille beaucoup au niveau de la com parce qu'il n'est pas très connu. Mais je sais que son texte, il va donner quoi.
Pendant que le son monte ici au café Beaubourg, on va doucement glisser vers la deuxième partie consacrée donc à l'édition d'un livre. Justement, on était en train de parler de nouveaux artistes. Tout ce qui se passe avant doit commencer a priori par des propositions à des artistes, ou peut-être l'inverse, peut-être qu'il y a des artistes qui connaissent la maison d'édition et qui vous proposent des projets.
C'est plutôt nous qui les contactons. Ça, c'est une partie qui n'est pas toujours facile parce qu'il faudrait qu'on ait des contacts directs et tout. C'est pas toujours évident. Il faut passer la barrière des managers, des agents, de la maison de disques. Et on n'y arrive pas toujours. Et puis bon, c'est aussi parce qu'on manque de temps hein, pour s'investir à fond. Quoi. Une fois que contact est pris, on voit les gens, on leur demande si ça les intéresse. En général, c'est oui, puisqu'ils nous ont déjà reçus. Donc on met en branle un peu les choses. On a écrit une note d'intention pour donner des pistes de réflexion, des directions. Mais c'est vraiment une espèce de guide qui... On l'a écrit noir sur blanc. Hein. Il faut le suivre et en même temps, il ne faut pas le suivre parce que... Si on vient avec une idée d'essai comme ça, avec des pistes, j'ai pas non plus envie que ce soit enfermé là-dedans. On pense pas à tout, mais c'est juste une espèce d'aide pour démarrer les choses en fait. Après, en général, on ne peut pas parler des auteurs pendant des mois, parce qu'ils sont en train d'écrire.
Il faut les relancer des fois.
Oui, ça arrive, mais en général, on est tombé sur personne et qui oublie quoi. Des fois, il se passe pas longtemps. Et par exemple, pour Xavier Plumat, on m'a proposé le sujet. Deux mois après, j'avais un texte où il n'y avait presque rien à retoucher derrière. Hein, donc,
Tout à l'heure, tu disais que vous lisiez les manuscrits toutes les deux.
Oui. C'est un des moments les plus excitants, c'est quand on reçoit le manuscrit. En même temps, c'est très excitant, mais en même temps, ça fait un peu peur parce que c'est là que les choses commencent vraiment, en fait. Et donc, on ne sait jamais la masse de boulot qui va arriver derrière. Donc voilà, mais donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on lit chacune le manuscrit de notre côté. Moi, je le lis deux fois en général pour avoir une idée. En général, je le lis une première fois en faisant aucune correction, juste pour avoir une idée de lectrice lambda. Donc là, c'est pas l'éditrice qui lit, c'est juste pour savoir si je comprends, si ça tient la route, si c'est bon ou si c'est mauvais. Ou si des fois, ça peut être pas mal, mais on sent qu'on peut faire mieux. Donc là, on sait qu'il va y avoir du boulot, etc. Des fois, c'est bon tout de suite, mais il faut quand même. De toute façon, il faut toujours bosser un peu. Hein. Quand on dit qu'il n'y a presque rien à faire derrière, les auteurs, je pense qu'ils diraient l'inverse, parce qu'on a quand même changé des choses, on a quand même demandé des éclaircissements, on a quand même changé des paragraphes de place, etc. Donc moi, je lis une première fois juste pour voir comme ça, et la deuxième fois, vraiment, j'attaque. Quoi. J'essaye de voir si tout est clair, s'il n'y a pas de contradiction, si la chute est bonne.
Tu prends des notes au passage directement sur le manuscrit
Sur le manuscrit, je barbouille. En général, la première phase, c'est de ne pas corriger soi-même, enfin, sauf les fautes d'orthographe, de conjugaison, de syntaxe, tout ça, quand il y en a. Des fautes où il n'y a pas de discussion possible, en fait. Après, pour les éclaircissements, des passages mal écrits ou de l'écriture un petit peu trop elliptique, on va expliquer, je vais surligner, je vais dire, voilà, moi, je ne comprends pas parce que ceci, cela. Et là, c'est à l'auteur de réécrire, en fait. Et si à la deuxième mouture ça va encore pas, c'est là qu'on va proposer de réécrire des propositions de réécriture qui viennent de nous. Quoi.
Est-ce qu'il y a des auteurs qui demandent de l'aide pour écrire ?
Non, pour l'instant non. On a contacté que des musiciens qui écrivaient leurs propres textes, donc ils avaient déjà une certaine pratique de l'écriture.
Si on prend un éditeur qui édite des romans, on peut dire assez facilement qu'il accompagne le texte d'un auteur vers le public. Quand il s'agit de la machine à cailloux, donc ta maison d'édition, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment dire la même chose, parce que ce n'est pas vraiment le texte d'un auteur, c'est plutôt un auteur qui répond à un exercice.
Oui, bon, c'est un livre de commande, hein, de toute façon.
Voilà, ouais. Donc du coup, le rôle de l'éditeur, comment on pourrait le définir ?
L'éditeur, c'est chez nous, c'est nous qui formulons une demande auprès de musiciens, donc on les fait travailler en fait. Hein. En fait, c'est un peu des devoirs.
Vous avez un métier de metteur en scène quelque part.
Oui, oui, oui. C'est qu'on sollicite les gens et on les fait bosser. Donc, bon, s'ils sont feignants, c'est chiant pour eux parce que c'est pas agréable. Mais c'est un livre de commande, donc ça veut dire que c'est cadré en fait. Donc, le sujet est cadré, la forme est cadrée, etc. C'est pas du tout libre. Mais en même temps, je pense que pour ceux qui sont tentés par l'envie d'écrire, en fait, c'est un bon début. Parce que
c'est un exercice.
Ils commencent sous contrainte en fait. Et je pense qu'une fois qu'ils ont compris la difficulté, s'ils ont envie, ils peuvent faire autre chose.
Alors, est-ce que c'est Sonia et toi qui écrivez les titres ?
Juste de trouver le titre du...
Est-ce que les auteurs vous font une proposition de titre ? Est-ce
oui,
que
en général, ils font une proposition qui nous convient quasiment jamais.
Ouais.
Parce que c'est comme pour tout, hein, on ne peut pas avoir le recul suffisant pour... Parce que nous, il faut qu'on essaye de trouver un titre un petit peu accrocheur.
Et oui.
Un petit peu accrocheur et à la fois qui ne trahissent pas le texte. Donc voilà. Et en général, les auteurs, c'est amusant parce qu'ils veulent mettre l'accent sur un truc qui nous paraît mineur, en fait, ou qui n'est pas du tout significatif.
Avant que le livre sorte, il y a le travail de fabrication.
Oui.
Et tout à l'heure, tu disais que c'était surtout toi qui t'en occupais.
Oui, là, c'est moi qui...
En particulier avec la composition.
Oui, alors, de toute façon, c'est des livres de texte. Alors, sauf Armand Méliès, où il y a de temps en temps des images pleines pages. Mais bon, au niveau de la maquette, il n'y a rien de compliqué. Hein, donc,
Mais c'est vraiment très, très classe quand même. Hein. Quand
ouais.
On a l'objet entre les mains,
mais c'est parce que
il y a un papier spécial pour la couverture.
Oui.
Et puis, il y a un travail typographique quand même qui est assez raffiné.
Bah, la typo, en fait, je me suis calée sur les livres que je faisais avec un copain avant. Là. Lui, il était vraiment très, très classique dans sa vision de faire un livre. Donc, il utilisait tout le temps la même typo, les deux, trois mêmes, etc. Donc, j'ai fait la même chose.
Il y a le travail sur la couverture. Il y a une photo, il y a un texte de quatrième de couverture.
Oui.
Ça, c'est aussi toi qui t'en occupes du...
Non, là, c'est quand il faut écrire de soi-même, c'est Sonia qui le fait. Elle est plus douée que moi pour ça, donc elle réfléchit, elle propose, et puis après, on travaille ensemble dessus jusqu'à ce qu'on soit d'accord toutes les deux sur le... Mais en général, ça prend du temps. C'est une partie qui est amusante à faire, mais c'est difficile de cerner en fait tout le livre sur une dizaine de lignes. Mais je pense que tous les éditeurs ont le problème, hein. C'est pas juste nous, hein. Et l'idée, c'est de donner envie de lire le livre. Que ça... Moi, j'ai vraiment le souci de ne pas trahir l'esprit du texte, en fait. Donc, je ne peux pas mettre un truc que j'ai envie de mettre si ça ne se retrouve pas dans le texte. Donc, il faut vraiment que je me dise... Si nous, on écrit quelque chose, il ne faut pas non plus que je pense à la place de l'auteur. Donc, il faut forcément que ça se retrouve quelque part dans le livre. Mais il faut aussi que ce ne soit pas anodin dans le livre. Parce que je mettrai en avant quelque chose qui n'est pas forcément significatif.
Et pour la photo ?
La photo, c'est moi qui l'ai fait, mais bon, on va dire que je me sens pas photographe. Hein. C'est juste que j'ai un appareil photo, en fait, et c'est tout. Quoi. Pour l'instant, je trouve que ça va. Donc, on reconnaît les gens, ils sont pas moches, donc ça va. Quoi.
Alors, le livre sort vraiment une fois qu'il a été imprimé. Et là, en l'occurrence, qui imprime ?
Là, on travaille avec un imprimeur qui est... dans la Nièvre, qui s'appelle La Ballerie.
Ouais.
C'est une scope, en fait. C'est pour ça qu'on les a choisis, parce que...
Scope ?
Ouais, c'est, en fait, c'est une...
Coopérative.
C'est une, ouais, voilà, c'est une coopérative. C'est, à un moment donné, je sais plus les dates, mais ça marchait plus très bien. Ils ont voulu vendre, et plutôt que de vendre à n'importe qui, en fait, c'est les ouvriers qui ont repris l'imprimerie. Alors, il y a quand même un directeur, etc. Hein, y a pas, c'est une structure normale. Il n'y a pas un conseil avec tous les imprimeurs qui décident de ce qu'ils vont faire. Il y a quand même quelqu'un qui décide des choses. Mais ils ont tous des parts dans l'entreprise, ils ont tous des parts, etc. Et ça m'avait plu comme idée, donc... je m'étais dit que peut-être ce serait des gens qui seraient plus impliqués dans le travail, en fait. Donc moi, j'ai besoin de... Comme j'ai du mal à déléguer, j'ai besoin d'être assuré, en fait, quand les gens font les choses à ma place. Or, je ne peux pas imprimer moi-même, parce que ça, je ne sais pas faire.
Et peut-être que c'est eux aussi qui font le dépôt légal.
Bah non, en fait, non, c'est nous. C'est vous. En fait, le dépôt légal, c'est à l'éditeur de le faire, mais l'imprimeur doit aussi déposer quelques exemplaires de son côté, en fait. Et après, la Bibliothèque nationale, je ne sais pas ce qu'ils font avec tous les exemplaires, mais je pense que ça leur permet de raccorder les wagons, en fait. Ou bien de relancer les éditeurs qui ont oublié, ou l'inverse, je ne sais pas trop. Mais non, ça, c'est un truc qu'on fait nous-mêmes. Il faut aller chez Electre aussi pour le faire référencer. Une fois que le bouquin est imprimé, qu'on l'a reçu, il faut le faire référencer dans tous les catalogues de Libraire. Ça, c'est une partie un peu désagréable. Il faut contacter la FNAC, toute la grande distribution, quoi, hein. Amazon, tout ça, quoi.
D'ailleurs, ça peut être fait même avant que le livre soit imprimé ?
Oui, ça peut être fait avant, oui. En général, comme ils aiment bien avoir les photos, la FNAC, par exemple, je ne sais pas comment ils se débrouillent, on leur envoie les images des couvertures, et puis sur... En fait, comme on a un papier de couverture où il y a de la matière, si je leur envoie les PDF, en fait...
Ah oui.
Ça n'a pas la même tête. C'est beaucoup plus joli, entre guillemets, quand on a juste le PDF qui sort de mon fichier de l'ordinateur, quand c'est le bouquin qui est scanné, parce que comme c'est un livre qui a de la matière, une couverture qui a de la matière, et ben, en fait, ça boit les couleurs, donc c'est moins lumineux, et puis ça fait un petit effet ridé sur la tête des auteurs. Après, bah, y a des grosses structures avec lesquelles on ne peut pas travailler parce qu'on ne les intéresse pas, quoi. Donc, de type Virgin, Leclerc, etc.
Ah oui.
On est trop petits, donc moi, je n'ai pas envie de me battre avec eux. Hein. Donc, on a laissé tomber pour l'instant et puis on verra plus tard. Hein. Si on se développe, on rediscutera avec eux.
Et quand le livre est imprimé, il peut être distribué chez les détaillants afin d'être commercialisé.
Alors, les distributeurs. Donc, dans les livres, il y a la diffusion et la distribution. Donc, la diffusion, c'est la partie commerciale. Et la distribution, c'est la partie logistique. Donc, nous, on a un distributeur. Il s'appelle Calibre. C'est une émanation du SNE, du Syndicat National de l'Édition, qui a été créé exprès pour les petits éditeurs, pour s'occuper de la logistique. Donc, eux, ils regroupent toutes les commandes qu'il y a en France et en Belgique. Et nous, on les livre une ou deux fois par semaine et eux, ils s'occupent de dispatcher. Ils s'occupent aussi du paiement. Ils nous font une facture globale une fois par mois, en fait. Ils s'occupent du recouvrement, etc. Donc pour moi, ça enlève une épine du pied parce que le recouvrement, c'était un truc assez pénible à faire. Et puis, des fois, on n'a pas de poids devant certains mauvais payeurs, en fait. Comme on est isolé, il y a des gens qui en profitent, comme dans tous les domaines, j'imagine. Ah oui. Et bah là, en fait, je m'occupe plus du recouvrement, j'appelle plus des libraires parce qu'ils ont oublié de me payer 4,23€. Enfin, bon, tout va bien, quoi. C'est très très bien. Et par contre, on n'a pas de diffuseur. Donc pour l'instant, comment on a fait ? Bah, on s'est occupé d'alerter la presse. On a essayé de décrocher quelques articles et tout. Pour l'instant, on suffit pour que les bouquins se vendent. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout, presque pas présent en librairie, quoi. Ça, c'est dommageable pour nous.
Mais bon, ça veut dire qu'on commande généralement
les bouquins
directement ?
En fait, si quelqu'un sait que nos livres existent, s'il va dans une librairie, en général, il ne les trouve pas. Donc il y a deux cas de figure. Ou bien il cherche sur Amazon, il les trouve, il les commande, tout va bien. Ou bien il demande à son libraire. En fait, le mieux, c'est de demander à son libraire qu'il le commande. Comme ça, le libraire donc, se contacte, notre distributeur, enfin tout va bien. Après, le mieux, c'est de nous joindre directement et on les voit en direct. Et en troisième lieu, malheureusement, c'est que la grande distribution, c'est Amazon, la FNAC, tout ça. En fait, leurs demandes de remise sont tellement énormes que ben, c'est le dernier que je conseille, hein, parce qu'ils sont trop gourmands, en fait. Moi, pour l'instant, je renonce. Je me dis que je renonce à être présent en librairie. Et puis, j'essaye d'installer la maison d'édition sur la durée. Et je pense qu'on finira par prendre un diffuseur qui s'occupera de cette partie-là. Parce que le truc qui est compliqué avec les livres, c'est comme avec les disques, c'est qu'il y a une capacité de retour, en fait. Donc il y a des libraires, ils peuvent commander, n'importe quoi, ils vont commander 100 bouquins, ils vont nous les payer au bout de 2 mois, mais ils ont 1 an pour nous les rendre s'ils les vendent pas. Donc par exemple, ils vont prendre 100 bouquins, ils vont nous donner les sous au bout de 2 mois, et puis 10 mois après, ça va les saouler peut-être de les avoir, les bouquins, ils vont nous les renvoyer, il va falloir que je les rembourse. Et ça, c'est de la gestion, et si c'est mal fait, si les libraires commandent trop et retournent trop, en fait, ça peut, au niveau de la comptabilité, ça peut être très dangereux, en fait. Et donc faut faire très attention là-dessus. Puis le problème, c'est dans quel état reviennent les livres, etc. Donc moi, je préfère un libraire qui va me prendre 3 livres et qui va les garder ou qui va les vendre que quelqu'un qui va me prendre 15 livres et qui va me les rendre tous, en fait. Ça, ça fait du flux, on paye sur les allées, sur les retours, on ne sait pas comment on retrouve les livres. Pour l'instant, je préfère m'assurer des ventes, moins de ventes, mais que ce soit des ventes fermes en fait.
Et les contacts avec la presse?
Alors, contact avec la presse, on a un fichier, donc on envoie, et en général, c'est une centaine de livres à chaque fois, enfin, par auteur en fait. Et puis on attend de voir ce qui se passe, quoi. Mais là, c'est pareil, par manque de temps, on ne fait pas les choses comme une grosse structure pourrait le faire, en fait. Hein. Nous, on envoie les livres et en général, on attend et on, voit ce, on surveille. Et puis, quand j'ai le temps, je relance et j'essaye de voir s'il va y avoir des papiers. De temps en temps, je tombe sur un papier par hasard. Donc, bon, ça veut dire que ça a marché. Visiblement, on a de la chance parce que sans tanner les journalistes, on arrive à obtenir des choses quand même. Donc, alors que j'ai des collègues qui galèrent, qui harcèlent les journalistes et il ne se passe rien. Donc, là-dessus, on a pas mal de chance, quoi. Mais c'est vrai que c'est une partie du boulot où on devrait consacrer plus de temps pour avoir plus de résultats.
T'as peut-être pas non plus le temps de faire une revue de presse très exhaustive.
Non, non, non. Puis ça fait plein de petites tâches et à la fin, on peut pas tout faire, en fait. Et, c'est pareil, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des histoires de rencontres. Je pense qu'un jour, je vais rencontrer quelqu'un qui va adorer faire ça, qui voudra le faire avec nous et on s'entendra et on le fera ensemble. Et puis ce sera fait mieux parce que la personne y consacrera plus de temps. Pour l'instant, on fait tout à la main, tout seul, à deux, en travaillant à côté. Et puis j'avouerai qu'il y a certaines choses qui passent un peu à la trappe. Et de toute façon, pour ce qui est tout ce qui est attaché de presse et tout ça, c'est mieux que ce soit pas les éditeurs qui, eux-mêmes, enfin les gens qui ont travaillé sur le texte, qui le fassent parce que on n'est pas objectif en fait. On n'est pas. C'est mieux que de quelqu'un d'extérieur qui va avoir un dialogue avec les journalistes. Et le journaliste pourra dire franco, bah non, j'ai pas aimé, alors j'en parle pas. Ou c'est pour ça que j'en parle pas parce que j'ai pas la place. Il va me prendre moins de pincettes et les choses seront claires, en fait. Moi, je préfère.
Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des retours des lecteurs, donc des gens qui écrivent.
Oui, de temps en temps, on a des lecteurs qui, en général, qui ont un peu galéré pour trouver les livres, donc ils nous expliquent, ah, j'ai pas trouvé, comment je fais, c'est la galère, nan, nan. Je leur réponds. Et puis, en général, ça se termine par une commande directe entre eux et nous. Et ça arrive qu'on ait des retours, ouais. Les gens qui ont bien aimé le livre. C'est marrant de voir comme les gens n'aiment pas du tout les mêmes choses que moi.
Ouais.
Je parle surtout au niveau des passages, où comme les gens bloquent pas du tout sur les mêmes passages, les mêmes choses, c'est assez amusant, en fait.
J'ai vu qu'il y avait des signatures dans les librairies de temps
en
temps.
Oui, oui. Alors ça, c'est une espèce de tradition. Dès qu'on sort les livres, on fait une signature derrière. Donc là, c'est la quadrature du cercle pour trouver entre la disponibilité du libraire avec qui on veut travailler, la nôtre et celle des auteurs. Des fois, on s'arrache les cheveux, quoi.
Mais bon. Mais des fois, c'est quand même possible.
Oui, oui. On n'a jamais renoncé jusqu'à présent. Non, non, mais là, pour Dominica et Armand Méliès, c'était trop compliqué de trouver une date près de la sortie du livre. Donc, on l'a fait en février, alors que ça faisait 5 mois que le livre était sorti. Donc, 5 mois, non, 3 ou 4 mois. Donc, voilà, il y a des fois, il faut retarder le moment.
Par contre, vous ne faites pas de lecture, j'imagine?
Non. Non, pour l'instant, on n'a pas fait, mais je sais qu'on a été contacté par une association qui s'appelle 45 Tours, qui propose des espèces de spectacles clés en main à des médiathèques, en fait. Donc, ils voulaient avoir nos auteurs pour le faire, pour le proposer aux médiathèques. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça donne. Ils sont payés, donc les auteurs, ils sont payés, c'est comme s'ils faisaient une date de concert, hein. Ils sont payés en cachet sur ces dates-là. Et donc ils sont invités dans une médiathèque, donc ils font un petit set acoustique, donc il faut qu'ils se déplacent seuls ou à deux maximum parce que sinon ça coûte trop cher, ou alors ça leur donne pas assez d'argent parce que le cachet est le même de toute façon. Et du coup ils font un mini set et puis après en général il y a une discussion avec les gens qui sont déplacés.
Donc ça c'est une forme d'adaptation du livre.
Ouais. Oui, mais ils parlent pas forcément de la création, etc. Ils peuvent, hein, mais c'est pas le truc. Alors c'est bien parce que ça fait d'autres genres de rencontres. C'est pas pareil que les concerts. En général, ça se passe dans l'après-midi, avec un public qui est pas du tout le même. Généralement, c'est des gens qui connaissent pas forcément les artistes. Donc ça, c'est rigolo. Et puis il y a tous les âges. Ça aussi, c'est marrant. Et puis, où il y a aussi les gens qui veulent participer à la vie culturelle, ils voient qu'il se passe quelque chose dans le coin, alors ils y vont, et ça fait des rencontres différentes. Et là, c'est un moment où peut y avoir un vrai contact avec le public, alors que pendant les concerts, pas forcément. En tout cas, pas le même. Parce que
le
c'est...
public est peut-être présent aussi si vous y allez au Salon du Livre.
Alors là, ça coûte trop cher pour qu'on soit présent au Salon du Livre, mais cette année, on s'était entendu avec un libraire parisien pour qu'il. qui était lui invité, enfin qui avait un stand, parce qu'il y a des stands régionaux, donc lui il était sur l'île de France et il nous a représenté en fait. Donc les livres étaient quand même là, mais en réalité on l'était pas vraiment, quoi. On a contourné un peu le truc.
Et j'imagine que vous suivez les ventes régulièrement.
Ouais.
Donc il y a une gestion du stock.
Ouais, moi je gère le stock.
Avec éventuellement des réimpressions.
Non, pour l'instant, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Mais disons que on a sorti tous les livres à 800 exemplaires, sauf Dominica, parce que vu la notoriété, on savait qu'on allait vendre plus. Donc on l'a sorti à 1600 exemplaires. Et donc des trois premiers, il nous en reste toujours. Même ouais. Si Albin, je crois que c'est celui où il nous en reste le moins, il reste 150 exemplaires. Donc j'aurais vendu encore 100 exemplaires, je serais obligé de le déclarer épuisé en fait. Et là Dominica qui a plutôt bien marché, on a vendu la moitié pour l'instant, un petit peu plus de la moitié. Il y a d'autres éditeurs, ils rigoleraient quoi quand je leur dis ouais en 4 mois j'ai vendu 800 exemplaires. Et je pense que c'est des affaires qui sont pas du tout rentables, mais nous on paye personne sauf l'imprimeur et les auteurs. Donc on a assez peu de frais quoi. Et puis les frais d'envoi, etc., le distributeur. Disons qu'il n'y a pas de salaire, etc. On n'a pas une volonté de... On n'a pas les actionnaires derrière qui nous demandent de faire du 15%, etc. Donc pour ça, on a de la marge de manœuvre, quoi.
Est-ce que par hasard, il y aurait des demandes de traduction ?
Non, pour l'instant, on a pas. Au début, on s'était dit qu'on pourrait pas, on n'aurait pas le temps de... Parce que ça fait un autre intervenant et... Moi, pour avoir commencé par être stagiaire dans l'édition et de voir comment l'édition, ça payait pas très bien, même après, quand on était un petit peu installé et tout ça, je m'étais dit on pouvait pas se permettre de travailler avec des gens qui écrivaient pas en français, parce qu'il faudrait que je paye un traducteur. Et pour l'instant, on n'a pas les moyens financiers de le faire, en fait.
Mais, ça pourrait être des demandes venant de l'extérieur, non ?
Ouais, puis bon, de toute façon, on n'est pas fermé là-dessus. Hein. Ouais. Un jour, on le fera, on trouvera quelqu'un, on le paiera quand même. Mais bon, je me souviens très bien des premiers boulots que j'ai faits où c'était de l'exploitation. Et j'ai pas envie de rentrer dans ce système-là. Malheureusement, pour une structure comme la nôtre, est-ce que c'est pas obligatoire ? J'en sais rien.
Est-ce qu'on a fait le tour, là de...
Pour moi, oui.
Ouais.
J'en ai dit plus que partout ailleurs, là, quand même.
Ça fait plus d'une heure qu'on discute.
Non, mais il y avait le truc sur le numérique, etc.
Ah, mais oui, carrément, j'ai même entouré la sur
ma
feuille.
Nous, au début, on voulait... j'étais bourré d'idées, j'avais un peu la folie des grandeurs. Je voulais justement qu'on fasse des versions audio, par exemple, du livre, avec quelqu'un qui lirait, pourquoi pas l'auteur lui-même, etc. En fait, techniquement, là, on ne peut pas suivre du tout. Là. Pour le coup, je ne maîtrise pas assez... Je sais pas sous quelle forme vendre ça, je sais même pas si ça marcherait, etc. Donc c'est toujours dans un coin de ma tête, hein, mais pour l'instant c'est pas du tout développé. Et je me dis que le jour venu, ce sera toujours possible de le faire. Mais
Donc soit des livres numériques, soit des
là,
livres audio.
Là, on n'a pas du tout.
Livres numériques sous la forme de fichiers PDF.
Non, pour l'instant,
par
on n'a pas du tout. On n'est pas du tout allé là-dessus. Je pense qu'on est trop petit pour ça.
Oui.
On est vraiment trop petit. Et je crois que les gens qui achètent nos livres, pour l'instant, ils sont quand même attachés à l'objet physique.
On termine par 5 petites questions rendez-vous création.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as appris à l'école qui te sert le plus aujourd'hui ?
Bah, l'orthographe.
Qu'est-ce que t'as appris avec l'expérience qui te sert le plus aujourd'hui ?
C'est comment négocier avec les gens, en fait.
Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta démarche de travail ? Dans ta démarche de travail.
Bah, je délègue beaucoup plus. Délègue beaucoup plus. Avant, je pouvais pas. Trop rigide, mais là...
Et qu'est-ce que tu vas faire différemment à l'avenir ?
Par rapport aux livres eux-mêmes là, pour les prochains projets, c'est que je pense que je cadrerai légèrement plus les auteurs dès le début sur certains aspects de leur texte en fait.
Finalement, si un débutant vient te voir et te dit moi aussi j'ai envie de créer une maison d'édition, quel est le premier conseil que tu pourrais lui donner ?
Moi, ce qui m'a vraiment le plus empêché au début, c'est tout l'aspect administratif. Donc moi, je suis assez généreuse pour donner des conseils, donc je pense que je donnerai tout, mes statuts, les démarches, ouais. Qui j'ai vu.
D'accord.
Et puis moi, je trouve que tout est possible, surtout dans les livres. On peut faire des livres pour pas très cher, donc après, ça dépend de quelle qualité on veut que ça ait. Maintenant, avec les impressions numériques, on peut faire des 50 exemplaires, 100 exemplaires. Maintenant, c'est très simple de faire des petits tirages, alors qu'avant, ça ne l'était pas du tout. Donc, quitte à devoir rééditer 100 exemplaires 3 mois plus tard, etc.
Merci Jennifer.
Merci, à toi.